Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Sud Kivu, 200 patients libérés grâce à un acte de charité. La fondation Joseph Kazibaziba règle leurs frais médicaux. RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Kinshasa dénonce des violations des conventions internationales. Ituri, le nouveau gouverneur militaire en visite à la MONUSCO. Le général Gabi Kasongo, qui est l'invité de ce journal, échange sur les défis sécuritaires et la coopération avec les FARDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous. D'abord, cette nouvelle qui apporte le sourire. Plus de 200 patients de l'hôpital de Kavumu retrouvent la liberté cette semaine. Ils étaient retenus depuis plusieurs mois dans cet établissement du Sud Kivu pour non-paiement de leurs factures. Ces femmes et enfants, durement affectés par la guerre dans l'est de la RDC, ont bénéficié d'un acte de charité du responsable de la Fondation Joseph Kazibaziba. Ces bienfaiteurs ont accepté de régler leurs frais médicaux. Une action saluée par le bénéficiaire. Le point avec Ronéline Tibonera.
À une vingtaine de kilomètres de Bukavu, le membre de la Fondation Joseph Kazibaziba se sont rendus à l'hôpital de Kavumu pour apporter un soulagement aux patients impactés par les conséquences de la guerre du M23. Dans cet établissement, des centaines de malades, femmes et enfants guéris de diverses pathologies étaient contraints de rester hospitalisés faute de moyens. Retenus dans des conditions difficiles, certaines femmes voyaient leurs enfants tomber malades, aggravant une situation déjà fragile. Face à cette souffrance, Joseph Kazibaziba a décidé de libérer ses familles de ses joues. Pour les bénéficiaires et leurs proches, c'est un véritable soulagement. Beaucoup rappellent que la crise économique, conséquence directe de la guerre, rend la vie de plus en plus précaire. La majorité de la population, dépendant des activités champêtres, n'en peut plus, car les zones autour des Kavumu sont devenues trop risquées, ajoutent des sources de la société civile. Les affrontements quasi réguliers entre le Wazalendo et les combattants du M23 continuent d'exposer la population, aggravant l'urgence sanitaire et accentuant une situation économique déjà délétère.
Et puis cet acte héroïque, des casques bleus de la MONUSCO sont intervenus dans la nuit du 21 au 22 juin pour maîtriser un incendie dans le village de Djangui. C'est dans le territoire de Djougou à Ituri. Grâce à l'intervention rapide des équipes déployées depuis Drodro, le feu a donc pu être contenu à temps, évitant ainsi d'importants dégâts matériels et humains. Le colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO, revient sur cette intervention au micro de Marc Marofimbo.
Une sentinelle de la MONUSCO a détecté un départ de feu et a immédiatement donné l'alerte. Des équipes d'intervention rapide ont été déployées avec du matériel de lutte contre les incidents afin d'appuyer les habitants et empêcher la propagation des flammes. Cette intervention a permis de protéger environ 45 habitations et plus de 300 civils. Aucun blessé ni aucune perte en vie humaine n'ont été signalés. En préservant des vies, des maisons et des moyens de subsistance, cette action illustre l'engagement quotidien de la MONUSCO en faveur de la protection des civils et de l'assistance aux communautés confrontées à des situations d'urgence.
Autre actualité, vous avez certainement lu hier vendredi sur plusieurs médias que Kinshasa a saisi officiellement la Cour internationale de la justice contre le Rwanda. Eh bien, le représentant de la RDC au Conseil de sécurité a justement annoncé cette nouvelle procédure engagée par Kinshasa hier vendredi au cours de la réunion sur la situation de la République démocratique du Congo. La RDC accuse le Rwanda des violations de plusieurs conventions internationales. Ambassadeur.
Sur le terrain, cette coalition M23-RDF continue d'occuper des localités congolaises, d'établir des administrations parallèles et de brandir la menace de nouvelles conquêtes militaires. Les conséquences conséquences pour la population civile sont dramatiques. Des centaines de civils sont tués au quotidien, dont des femmes et des enfants. Des millions de personnes ont été déplacées et des violations graves et massives des droits humains continuent d'être documentées. Dans ce contexte, ma délégation appelle à la mise en œuvre intégrale et sans condition de la résolution 2773-2025, notamment, en ce qu'elle exige le retrait sans condition de la force de défense rwandaise du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Le rôle central de la MONUSCO, ma délégation, insiste sur la nécessité de garantir la pleine liberté de mouvement de la MONUSCO et la mise à disposition de ressources adéquates pour lui permettre d'exercer pleinement son mandat.
La raffinerie Gazabo Gold LTD basée à Kigali a été sanctionnée par l'Office de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département du Trésor américain. Cette sanction consiste notamment au gel de ses avoirs. Selon le département du Trésor américain, cette raffinerie ferait partie d'un réseau impliquant des sociétés et des individus accusés de trafic des minerais dans l'est de la RDC en collaboration avec les M23. D'après l'OFAC, ces sanctions s'inscrivent dans le cadre des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda. L'objectif affiché par les États-Unis est d'empêcher que les richesses minières du Congo ne profitent à des groupes armés. Ronelyne Tibonera.
Selon le département du Trésor américain, depuis la prise de contrôle des capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu par le M23, appuyé par le Rwanda, Gasabo Gold est devenu un partenaire clé des autorités rwandaises et des rebelles pour l'approvisionnement et les transports des l'or extrait illégalement dans l'est de la RDC. Le communiqué précise que les forces rwandaises et les rebelles du M23 ont assuré les transports sécurisés de l'or vers Kigali par voie terrestre ou aérienne avant son raffinage. Justifiant ces sanctions, le secrétaire au Trésor américain Scott Bancett déclare « Les États-Unis ne permettront pas à des groupes voyous de tirer profit du commerce illicite des minéraux et de déstabiliser la région. Les richesses minières de la République démocratique du Congo appartiennent légitimement au peuple congolais. Outre Gasabo Gold, ces sanctions visent également Jean-Malik Kalima et Bosco Kayoboti, respectivement président et directeur général de la raffinerie, ainsi que plusieurs sociétés minières qu'ils contrôlent. C'est notamment Bugumbira Mine Limited, Wolfram Mining and Processing Limited et Ruinkavu Mining Corporation Limited. À noter que l'Union européenne avait déjà sanctionné Gasabo Gold en 2025 pour son rôle dans l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles dans l'est de la RDC.
Réagissant à ces sanctions, la société civile du Nord Kivu exprime sa satisfaction à la suite des mesures prises contre Gazabo Gold Raffinery et ses dirigeants pour leur responsabilité dans les trafics mafieux des minerais de sang dans l'est de la RDC en complicité avec les M23. Selon son secrétaire exécutif, ces sanctions ne doivent pas s'arrêter là. Placide Nzilamba encourage les États-Unis et d'autres puissances à aller plus loin dans leurs mesures jusqu'à la dissolution complète du M23. Placide Nzilamba est au micro de Ronelyne Tibonera.
Cette attitude que les États-Unis viennent de prendre aujourd'hui pour sanctionner l'usine de raffinerie Gasabo du Rwanda pour avoir trafiqué l'or venant des zones à conflit ou l'or des sangs, fait suite effectivement à cette loi-là Dodd-Frank de l'époque que les États-Unis avaient édictée à l'égard de toutes les entreprises américaines qui pouvaient traiter avec les groupes armés ou même toute autre entreprise qui achèterait des minéraux venant des zones en conflit. Nous encourageons encore les autres pays aussi à prendre d'autres sanctions à l'égard du Rwanda, les autres aussi organisations régionales à prendre les mêmes sanctions à l'égard du Rwanda pour l'obliger à arrêter ses velléités guerrières et criminelles en République démocratique du Congo et même dans la région des Grands Lacs. Parce que cette guerre ne trouble pas seulement la vie au Congo, trouble aussi la vie dans la région des Grands Lacs, en Afrique et même dans le monde entier. Parce que les effets de cette guerre arrivent même dans les grands marchés du monde et même dans d'autres continents. À notre niveau, c'est dire il faut l'arrêter pour donner la paix au monde entier.
Autre chose, clôture hier vendredi à Beni d'une session de formation de 5 jours destinée aux magistrats et aux officiers de police judiciaire à l'identification, l'extraction et la conservation de preuves électroniques. Cette formation organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO visait à renforcer les capacités des acteurs judiciaires face aux défis liés à la collecte de preuves numériques, notamment à partir des téléphones, ordinateurs et autres supports de stockage. Le colonel colonel magistrat Yoma Moukoko Apollinaire, substitut de l'auditeur supérieur militaire du Nord Kivu, revient ici sur son utilité. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Les 5 jours ont été vraiment bénéfiques. Raison pour laquelle je tiens à remercier les organisateurs de cette formation, vu la pertinence de cette formation, et surtout la formation était accessible. Comment faire l'autopsie des supports numériques pour chercher à identifier, à récolter, à extraire tout moyen de preuve nécessaire à la manifestation de la vérité. Et aussi, l'importance aussi, comment même une preuve qu'on a dénaturée, qu'on a déformée, on peut arriver à les reconstituer et l'extraire. Le travail que nous faisons, nous, essentiellement, c'est un travail pénal. Nous faisons la répression des crimes, surtout des crimes graves, nous, la justice militaire, dans cette région de la République où les taux de criminalité les plus élevés et où nous assistons à beaucoup de scènes d'insécurité, dit au M23, ZADF, les groupes armés et consorts. Donc, aujourd'hui, les ZADF, par exemple, ils utilisent la cybercriminalité, le blanchissement des capitaux, et ils utilisent des moyens digitaux. Alors, pour arriver à asseoir des preuves, il faut vraiment connaître toutes ces techniques d'analyse criminelle, d'analyse numérique.
La deuxième phase du programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandanji Kaprodan, effective, elle a été officiellement lancée avec la signature de l'ordonnance présidentielle jeudi dernier. Financé par la Banque africaine de développement BAD, ce programme ambitionne de faire de Ngandanjika un pôle agro-industriel majeur contribuant à la sécurité alimentaire et au développement économique du pays. Il vise notamment à accroître la production agricole, réduire la pauvreté rurale, créer des emplois durables pour les jeunes et les femmes et améliorer les revenus des producteurs. Docteur Bruno Miteyo Nyenge, notable de Ngandanjika. Ses propos sont recueillis par Richard Junior Kamunga.
La population du territoire de Ngandanjika est très heureuse d'accueillir cette nouvelle. En effet, le chef de l'État, dans sa vision, a compris que le grenier agricole du Kasaï, qui est Ngandanjika, depuis un temps n'a plus joué ce rôle. Et c'est pour ça que, avec des partenaires, à l'occurrence Banque africaine de développement, notre gouvernement a, grâce à un appui bien réfléchi et décidé et via le Parlement que Ngandanjika redevienne une terre véritablement agricole et rayonne à travers une bonne partie de notre pays, notamment dans la région centre du pays. Et c'est pour ça que sur base de toutes les propositions qui ont été faites, le chef de l'État a pris une ordonnance. Il a décidé que cette deuxième phase puisse démarrer. Nous le remercions très grandement. Nous remercions également toutes les parties prenantes et nous félicitons la population et qui a pris conscience et qui a pu obtenir cette décision de la part du chef de l'État.
Parlons culture et surtout littérature avant de boucler ce journal. L'ouvrage intitulé Cédric Tshibui Kasonga Océan, une préférence divine et une référence générationnelle a été présenté mercredi 24 juin au cours d'une cérémonie de vernissage organisée à Kinshasa. Ce livre de 367 pages paru aux éditions universitaires africaines est écrit par l'abbé Marcel-Claude Kabongo Chitala et préfacé par Électeur Kumbu Kikumbu. L'auteur trace le parcours spirituel de Cédric Tshibui Kasonga, un personnage qu'il immortalise et qu'il présente comme un homme de foi, de prière et de réflexion. L'abbé Marcel-Claude Kabongo Chitala explique sa démarche au micro de Jean-Marc Matouaki.
Le seul mot qui traverse le livre de part en part, c'est la générosité. J'étire de mon personnage rédactionnel la leçon que la générosité, telle que nous l'avons toujours vécue, doit être inversée. C'est-à-dire, on n'attend pas de Dieu pour en fait agir, mais on agit envers Dieu pour que Dieu vienne en second lieu. Je pense que c'est ça la grande ligne rédactionnelle qui traverse le livre. Parce que ici, il y a une expression que Cédric utilise quand je lui pose la question sur sa générosité ou sur sa relation avec Dieu. Il dit, il considère Dieu comme Pémi, Paris Mutuel Urbain ou Winner, voilà, quelque chose dans ce sens-là. Il dit, pour que tu gagnes l'argent chez Winner, tu dois d'abord commencer toi-même par aller jouer. Donc, au tier, au lié. C'est ça l'expression qu'il utilise. Au tier, au lié. L'itiété, yété. Donc, c'est une générosité renversée en principe. C'est peut-être ça la ligne principale qui traverse les livres.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le régime militaire a annoncé ce vendredi 26 juin 2026 dans la soirée rompre ses relations diplomatiques avec la France. L'annonce a été faite à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, Pimbende Gilbert Ouédraogo. Le Burkina Faso dénonce notamment l'activisme incessant de la France contre ses intérêts après des années de tensions entre les deux pays. La France a réagi et dit regretter une décision hostile et sans fondement.
L'invité.
Le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri multiplie des prises de contact avec les partenaires engagés dans la stabilité de la province. Jeudi 25 juin 2026, le général Gaby Kassongo a visité les installations de la MONUSCO au camp d'Oromo à Bounia afin de s'imprégner des capacités opérationnelles de la mission et d'échanger sur les principaux défis sécuritaires. Quels enseignements tire-t-il de cette visite et comment entend-il renforcer la coopération entre la MONUSCO et les FARDC? Il répond aux questions de Jean-Claude.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
C'est votre toute première visite donc depuis votre prise de fonction en Ituri. Et là, vous venez de, ce jeudi de visiter les installations de casque bleu de la MONUSCO. Quelles sont vos premières impressions après cette visite et échange avec les responsables militaires des casques bleus, pardon?
Je suis venu en visite de prise de contact avec tous les acteurs engagés dans les efforts pour la protection des populations civiles, pour la restauration rapide et durable de la paix, ainsi que pour le développement socio-économique. Je viens d'être accueilli dans ce cadre pour comprendre comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent et comment ils sont déployés sur l'ensemble du territoire de la province de l'Ituri.
Dans le contexte actuel de l'état de siège, comment vous comptez renforcer ou bonifier cette collaboration entre le gouvernement provincial, les FARDC et les casques bleus pour faire face justement aux défis sécuritaires en Ituri?
Comme je venais de le dire tout à l'heure lors de ma déclaration, mon engagement demeure indéfectible pour travailler ensemble avec les partenaires au service de la paix.
Quels sont vos principaux axes, si vous voulez, de coopération que vous souhaitez bien privilégier avec la MONUSCO pour accélérer le retour de la population? Comme vous l'avez dit, il y a encore des déplacés qui sont sur le site. Comment vous pensez, quels sont vos axes prioritaires par rapport au rétablissement de la paix en Ituri?
Notre obligation, c'est de restaurer la paix par tous les moyens. Je dis bien des moyens légaux. Alors, pour y parvenir, nous allons par une approche que je peux appeler l'approche holistique, là où il y a des lignes. Il y a une ligne opérationnelle où on peut mener les opérations militaires proprement dites. Il y a une ligne de réconciliation de la population, c'est-à-dire toutes les communautés, les 21 communautés, nous avons le devoir de les réconcilier. Or, dans le cadre de la mission des Nations Unies, nous venons de voir tout à l'heure avec leur exposé qui est aussi dans le cadre de protection de la population civile, ils participent aussi à la réconciliation des communautés. Ils ont organisé bien des choses, par exemple l'organisation des formations, l'organisation des activités sportives, des activités agricoles et de l'élevage, tout ça pour favoriser le vouloir vivre collectif.
Et votre message à la population pour terminer notre entretien?
Je suis venu dans l'Ituri pour travailler comme gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Et je demande à tous les Ituriens, femmes, hommes et enfants, qu'ils viennent qu'on travaille main dans la main pour chercher à créer les conditions favorables au retour de la paix durable.
C'est l'Ebola qui continue à sévir. Peut-être vous allez placer les mots dans le cadre de la collaboration et appuyer les autorités sanitaires pour éradiquer cette épidémie dans l'Ituri, l'épicentre d'ailleurs.
Pour l'Ebola, nous avons dit et nous ne cessons jamais de le dire, nous voulons que la population puisse s'approprier elle-même de cette lutte contre ce maudit virus d'Ebola. Si la population fait cette lutte son affaire, nous avons quelques jours pour bouter dehors ce maudit virus d'Ebola. Donc l'appropriation. Là, je compte plus sur les relais communautaires, sur les leaders communautaires. Et là, mon message est clair. Respectons toutes les mesures barrières et l'Ebola sera bouté dehors. Merci.
Je dis merci, monsieur le gouverneur.
Merci.
C'était notre invité, le général Gaby Kasongo, qui s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Voilà qui met fin à cette édition du journal coordonnée et supervisée par Lievin Mbouinga-Voubou et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux informations sportives avec Blaise Ndongala Mayanda qui vient de me rejoindre dans ses somptueux studios. Bonjour Blaise Ndongala Mayanda.